Poésie présente Après l'incendie, suivi de Trois lamentations de Robert Goulric. Lu par Colette Sodoyer et Xavier Percy. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Psaume 46, 4. Prologue. Tout commence par une maison et s'achève dans les cendres. Vous pensez tenir votre accroche. Autant boucler l'article et rentrer à la maison. Il suffit d'un coup de téléphone à la rédaction. Et pourtant, vous n'avez pas encore mis le pied sur la propriété. Mais cette phrase résume à elle seule toute l'histoire de cette famille. Sauf que, entre la construction de cette maison en 1784 et sa chute, 150 ans plus tard, une ou plusieurs personnes ont trouvé la mort dans l'incendie désastreux qui fit rage dans la nuit du 6 au 7 décembre 1941. C'est tout ce que vous en savez, comme tout le monde. Tout le reste n'est que folklore. Vous n'êtes pas dupe. Si on vous a envoyé ici, c'est pour passer les cendres au tamis, dans l'espoir de dénicher un indice qui résoudrait le mystère et le silence insondable de ces 50 dernières années. Dans l'aube naissante, vous vous tenez à la proue du bateau de pêche que vous avez loué pour la journée à un amarrilleur et qui descend lentement de Port-Royal. Vous n'apercevez pour l'instant qu'une silhouette carrée et massive, mais il est déjà évident que la maison était gigantesque. Saratoga. Son nom, issu d'un vieux dialecte indien, signifie les flancs de coteaux de la rivière paisible, les terrains de chasse près de l'eau. Vous avez bien potassé le sujet. Les plans de la maison reprenaient ceux de Saint-Gilles House, l'immense demeure du comte de Shaftesbury. Et bien que légèrement moins spacieuse, Saratoga restait la plus vaste d'Amérique, avec ses innombrables chambres et ses architectures grandioses qui stupéfiaient les visiteurs. Elle avait coûté des sommes astronomiques. Et cette folie des grandeurs avait laissé la famille dans un état de pauvreté qui n'avait pu être compensé que par le labeur insensé d'au moins 900 esclaves, cueillant le coton, faisant sécher le tabac et bouillir l'arachide. Et pendant des générations, nettoyant la crasse de leurs propriétaires avec une fureur muette. Privés de leur humanité, ces 900 esclaves avaient souvent imaginé l'immense bâtisse en flammes, dans les hurlements de douleur de leur maître blanc. Oh, si blanc! Dans l'incapacité de s'enfuir, vendus comme des chiens de rue, séparés de leurs enfants, ces bébés qu'on arrachait au sein de leur mère à Natchez ou à Memphis, ils n'avaient que leur musique pour s'exprimer, et on y entendait les cris d'agonie de leurs bourreaux. Ils chantaient le gospel, de la musique africaine, dans l'espoir de trouver le chemin vers les cieux. Pourtant, leur cœur était rempli de haine et de pulsions meurtrières. Cette maison ne s'était pas construite avec des briques et du mortier, mais avec une cruauté inimaginable, transmise de génération en génération. Les femmes portaient les bâtards engendrés par leurs maîtres concupiscents, qui laissaient leurs épouses ennuyeuses et guindées, sagement endormies, pour descendre aux cabanes violer les jeunes femmes. C'était une maison bâtie sur les larmes. Combien sont morts dans l'incendie? 3, 4? Ou seulement elle, Diana Cook Copperton Cook? Était-ce un accident? Ou l'œuvre de pyromane, comme l'avait décrété ce benêt de shérif? Toujours est-il que quiconque se trouvait là a péri, que les flammes ont calciné la chair jusqu'aux os, puis réduit les os en cendres. Si elle avait survécu, elle aurait 99 ans aujourd'hui. Douteux, mais pas impossible. Et dans le cas peu probable où elle serait bel et bien vivante, où se serait-elle terrée? Elle avait été déclarée morte au bout de 7 ans révolus, et alors son fils avait pris le rôle de ce qu'il restait de l'argent. Pas grand-chose à vrai dire. Où était passé le reste? Il était censé y avoir une fortune. De telles sommes ne disparaissent pas comme ça, et il était impossible qu'elle ait tout dépensé. Peut-être n'y avait-il eu d'autres pyromanes qu'elle-même. Peut-être s'était-elle réveillée en pleine nuit, face à cette alternative. Se tirer une balle dans la tête, ou tout faire brûler. Cependant, à l'intérieur de la matrioshka de sa vie, il y avait une autre silhouette, et encore une autre. Une suite infinie de figurines, de plus en plus petites, qui s'emboîtaient parfaitement. Et quelque part dans la poupée la plus minuscule, elle avait dissimulé son âme et ses amours. Son fils, Ashton, qu'elle n'avait pu oublier, et qui seul faisait encore battre son cœur. Son activité principale consistait même à rêver de lui. Son fils unique, si beau, au charme infini. Il avait passé la majeure partie de sa vie loin de sa mère. Aussi son visage apparaissait-il à cette dernière non pas comme dans un film, mais en une succession de plans arrêtés. H à 12 ans, montant dans le train qui l'emmenait en pension à Exeter et pleurant à la vitre de son compartiment. Puis, par la suite, en visite aux vacances. Le revoir tellement grandi était un choc à chaque fois pour Diana. Et il jouait la comédie de l'affection, quand en réalité, ils en savaient de moins en moins l'un sur l'autre. Les factures de ses vêtements atterrissaient directement chez les avoués de la famille. Aussi, le découvrir dans un nouveau manteau était-il toujours une surprise pour Diana. Mais tout cela n'est que spéculation. Vous extrapolez à partir de bribes glanées ça et là. Vous voyez cette maison pour la première fois, et pourtant elle ne vous est pas inconnue. Toutes ces heures passées à éplucher des livres, des articles et des piles de photographies vous ont préparé à ce spectacle. Et vous vous sentez à la fois satisfait et déçu qu'il n'y ait rien de plus. Vous en venez même à vous demander pourquoi vous avez fait tout ce chemin. Et pourtant, elle vous est bel et bien inconnue. Elle vous surprend, peut-être simplement parce que vous la voyez pour de vrai et qu'elle est plus vaste que dans votre imagination. Que le vent est plus froid, plus salé. Tout est étonnement, comme la première fois que l'on voit les chutes du Niagara. On s'attend à une foule de touristes, à être déçu, et l'on rencontre l'émerveillement face à tant de puissance et de grandeur. Et l'on est ravi, comme un enfant. De même, ici, tout le reste disparaît. L'équipage du bateau, les vols de mouettes, le tonnerre qui menace, tout est éclipsé par le mystère de cette quête, de cet objectif dérisoire. Et ce mystère, cet élan qui vous a poussé à prendre une loupe pour examiner les photos à la lumière, se réveille dans votre cœur. Vous le sentez battre à nouveau dans votre gorge, l'espace d'une minute, le temps de vous rappeler que ce n'est qu'un boulot, rien qu'un article à écrire. Vous ferez votre papier, comme toujours. Ensuite, vous l'oublierez, et on en mesurera la valeur au nombre de clics et de partages sur Internet. Vous n'avez rien de nouveau à ajouter, c'est à peu près votre seule certitude. Certains disent qu'elle vit encore là, Kakoshim, dans la maison de gardien. Pourtant, vous ne percevez aucun mouvement, aucun signe de vie hormis l'éclair blanc et furtif de la queue d'une biche filant dans les fougères. Rien d'autre que le délabrement de cette maison bâtie il y a 2 siècles, qu'on appelait et appelle toujours, malgré sa ruine, Saratoga. Vous avez parcouru un long chemin, arrivant par bateau, car c'est ainsi qu'ils arrivèrent, les premiers, et parce que la végétation a rendu impraticable la route longue de 2 kilomètres qui mène à Port-Royal, la ville la plus proche. La bâtisse calcinée, dont la brique est à peine discernable, se dresse dans ce qui fut jadis une concession de 2000 hectares octroyée par George Ier à un certain John Cook, le roi Cook, comme on le surnommait et le surnomme encore dans le coin, premier d'une lignée de 3. Avec les hommes qui l'accompagnaient, il avait débarqué ici, où il n'y avait rien. Et ils avaient maté la terre avec des mules et des noirs, à la sueur de leur front.